Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
C'est ce que nous avons chanté, Elion ou El Shama. C'est précisément ce que je voudrais vous dire. Merci pour le choix et merci pour l'inspiration du Seigneur. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, c'est important. El Elyon, celui qui est le Très-Haut, celui qui est au-dessus de tout. Et puis El Shama, celui qui est ici. Alors il y en a beaucoup de noms comme ça, des noms de Dieu, les noms qui désignent Dieu. C'est quelque chose de très intéressant lorsque nous regardons, parce que c'est le reflet de la personne, c'est le reflet de ce qu'est Dieu, dans toutes ses dimensions. On appelle ça les attributs divins. Alors, je ne veux pas faire les choses compliquées, mais c'est parce qu'il y a un but à atteindre à travers ces noms de Dieu. Et ce matin, en écoutant les diverses louanges, teinté de prière. Alors la prière, je le rappelle, c'est pour le mercredi soir, d'accord? La louange, l'adoration, c'est le dimanche matin. Alors venez aux réunions de prière. Mais une chose que je voudrais préciser, c'est que, je l'ai dit il y a un instant, ce matin peut-être qu'il y a quelque chose de particulier, dans ce sens qu'il y a peut-être dans le cœur de beaucoup, des inquiétudes, il y a des aspirations, il y a parfois aussi de la crainte. Et le message que je devais en préparer un autre, enfin j'en ai préparé un autre, et puis au dernier moment, eh bien voilà, Dieu nous demande de la flexibilité. C'est-à-dire que je peux avoir préparé un message, au dernier moment, Dieu dit, tu vas dire autre chose. Et c'est ça, justement. El Shaddai, parfaite sécurité. Et pour que nous puissions, eh bien, quelque part, ne pas réagir comme le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. El Shama, le Dieu qui est ici. Il est partout. Il est universel. Mais il est là. Alors, je vais prendre simplement deux lectures. Peut-être que ça peut correspondre à des questionnements, à des interrogations de notre situation d'aujourd'hui, les temps dans lesquels nous vivons. Et la première lecture, je vous la propose dans Luc, chapitre 21, verset 11. Luc, chapitre 21, verset 11. Bon, on va prendre verset 11. Verset 10. Alors Jésus leur dit, une nation s'élèvera encore contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Et en divers lieux, des pestes et des famines. Retenez bien la dernière phrase. Il y aura en divers lieux des grands tremblements de terre, des pestes et des famines. Et puis nous allons maintenant ouvrir un des plus beaux psaumes, à mon sens, de ce que nous avons dans la Bible. Ils sont tous magnifiques et merveilleux, mais celui-ci, je vais vous raconter un peu son histoire. Et c'est une histoire qui, véritablement, peut être appropriée à tous ces troubles, tous ces bruits, tout ce qui se passe dans notre société, dans notre temps, notre siècle. Le psaume 91, alors tout le monde le connaît, je pense qu'il est aussi connu que le psaume 23. Et c'est ça ce que j'ai eu sur le cœur, alors j'ai eu le temps, parce que j'ai le temps de préparer ce message pour vous ce matin. Alors, psaume 91. Et vous allez retrouver le cantique. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que Dieu nous bénisse à travers ce psaume. Parce que l'objet de notre méditation ce matin est de pleine actualité, si je peux prendre cette expression. Oui, de pleine actualité. Et je crois qu'il est nécessaire que le peuple de Dieu, que les enfants de Dieu, ceux qui lui appartiennent, renforcent leur défense immunitaire. Mais je ne parle pas de n'importe quelle défense immunitaire. Il y a celle de la nature, mais il y a aussi les défenses immunitaires spirituelles. Parce que c'est quelque chose qui est essentiel pour chacun d'entre nous. Et Dieu nous a donné un antidote imparable, c'est la foi. Je ne parle pas de superstition, je ne parle pas de croyances religieuses, je ne parle pas de quelques raisonnements qui pourraient éventuellement avoir trait à Dieu. Je parle de la foi inspirée par le Saint-Esprit et qui nous est présentée à travers l'Écriture sainte. Parole vivante, parole incarnée à travers la venue de Jésus, naturellement. La foi. Tout est possible à celui qui croit. Que si quelqu'un demande quelque chose en priant, croyez qu'il l'a reçu et il le verra s'accomplir. On est d'accord sur le principe. Ça, c'est important. La foi pour tout. La foi pour la guérison de nos corps. La foi pour nos troubles psychologiques ou moraux. La foi dans notre vie spirituelle d'une manière ou d'une autre. La foi qui nous sauve, la foi qui est le fruit du Saint-Esprit en nous et qui nous donne la paix et le repos, la foi miraculeuse, comme nous trouvons des exemples à travers l'Écriture sainte. Et voyez-vous, je crois que c'est quelque chose d'important parce que nous ne sommes pas les seuls à nous poser la question, c'est que nous vivons dans un monde d'imprévisibilité. C'est-à-dire que nous avons tellement préparé les choses, tout est cadré, tout est organisé, tout est bien en ordre, et puis finalement il y arrive des choses qu'on n'avait pas pensé. Des choses inattendues, des choses silencieuses, des choses qui viennent de près ou qui viennent de très loin. C'est ce que j'ai appelé l'imprévisibilité d'un phénomène invisible certainement et mystérieux. Il y a un mot redoutable, comme le mot cancer aujourd'hui, mais à travers tous les siècles et tous les temps, peste, choléra, etc. Il y aura, dans les derniers temps, eh bien ceci, il y aura cela exactement. Et mystérieux. Et c'est mystérieux parce que cela échappe à la compréhension et à la maîtrise des hommes, qui ont tout préparé, sauf l'imprévisible. C'est ainsi que dans le grand événement eschatologique, c'est-à-dire le retour de Jésus, tout le monde pense à beaucoup de choses, sauf à cela. Et pourtant c'est écrit. Et pourtant c'est marqué. Et pourtant c'est connu. Et pourtant c'est prêché dans des millions et des millions d'églises dans le monde, depuis des siècles et des siècles, on peut parler de millions, probablement. Et c'est ça justement, ce qui est assez étonnant et extraordinaire, c'est que les hommes ont pensé à tout, sauf à l'essentiel. Il y a des choses qui nous arrivent, elles sont prévisibles. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Depuis des siècles, ça traîne. Les bottes foulent finalement le monde. Et on sait qu'un jour ou l'autre, ça existe et ça existera, et ça existe encore aujourd'hui. Il y aura des tremblements de terre, la terre qui se dérobe sous les pas des hommes. On le sait parce que, bon, voilà, le volcanisme ou, je ne sais pas, toutes les terreurs, les séismes, tout ce que vous voulez. Il y aura des famines, mais il y en a toujours eu. On s'attend à ce qu'il y en ait d'autres, que ce soit d'une manière ou d'une autre, pour des raisons politiques ou pour des raisons de dévastation, comme dernièrement les sauterelles dans la corne de l'Afrique, où là maintenant, eh bien, il ne reste plus rien du tout, et qu'il y a certainement des millions et des millions de gens ou des milliers de gens qui vont mourir. On prend de grandes précautions dans nos pays occidentaux pour les vaccinations. C'est un grand progrès pour l'humanité, hein. Je ne dis pas le contraire, au contraire. Et c'est Dieu qui a donné l'intelligence à certains hommes pour trouver des solutions. Mais il y a des choses qui nous dépassent. Et Jésus nous le dit. Il le dit à ses disciples il y a 2000 ans. Il y aura ceci, cela, il y aura des maux, il y aura des maladies, il y aura toutes sortes de choses. Et quand on prend... Quand on fait un petit peu, quand on répertorie, eh bien, dans l'histoire, même du dernier millénaire, on s'aperçoit que tous les pays sont passés par des crises, de graves maladies, que l'on appelle des épidémies, et encore plus, parce que quand ça atteint tous les pays, ce sont des pandémies. Alors, ne tremblez pas sur votre chaise. C'est mon introduction. Je vous ai déjà donné le fil rouge il y a un instant, la foi. Alors certains diront, mais il n'est pas bien ce monsieur. Il y a d'autres réalités. Ben, bien sûr qu'il y a d'autres réalités. Mais nous, cette réalité-là, elle est connue. Et elle a été expérimentée. Elle a toute la valeur pour un chrétien né de nouveau. Parce que ce qu'il sait, il ne le sait pas humainement parlant, c'est pas la chair et le sang qui nous l'ont révélé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous l'a révélé. C'est autre chose, hein. On n'est pas dans le même monde, on n'est pas sur le même registre. Alors, c'est intéressant, et je voudrais justement commencer par cela. Il y aura des pestes, les signes précurseurs du retour de Jésus-Christ. Mais ça a toujours été. Les gens diraient, mais ils attendent encore. Ils attendent leur sauveur. Ils attendent leur Messie, les Juifs. Hein. Mais ils l'attendent encore aussi. Hein. Alors, j'aimerais donner un petit peu l'histoire de ce psaume 91. Ce psaume s'est singularisé ou s'est fait remarquer dans les grands conflits guerriers de tous les temps et particulièrement dans les grands conflits du XXe siècle. Peut-être avez-vous vu quelques films, ou quelques reportages, ou quelques lectures avez-vous consultées dans les grands conflits, dans les grandes guerres. Et aujourd'hui, c'est encore autre chose que les batailles du Moyen-Âge, hein, naturellement. Particulièrement chez les soldats anglo-saxons, c'est-à-dire les Américains, les Australiens, les Néo-Zélandais, les Anglais, etc., qui sur le front, en Europe, partaient à l'assaut et qui invoquaient ce psaume en suppliant Dieu de les garder en vie dans la mitraille. On a vu ça, on l'a entendu. On voit un soldat qui est là, est à genoux, qui prie et qui dit, Seigneur, eh bien, tu as fait ta promesse, tu as fait cette promesse, en toi je me confie, et tu as promis que je ne craindrai pas les terreurs de la guerre, je ne craindrai pas la flèche qui vole en plein jour, je ne serai pas atteint par ceci et cela, 1000 à un côté, 10 000 à gauche, à droite, peu importe. Mais j'ai fait la promesse, dit Dieu, que cela ne t'atteindra pas. Je me souviens le témoignage d'un frère, lorsque j'étais à Angers, très âgé, qui avait fait la guerre de 14. Un jeune, il devait avoir 18 ans à l'époque. Et il pouvait en parler savamment parce que il était au front. Et il était chrétien. Et il priait. Et il disait, mais j'ai vu des choses horribles, des choses terribles. Mes camarades qui tombaient à droite, qui tombaient à gauche. Et moi, je priais parce que je croyais en Dieu. Et je suis sorti indemne de 4 ans d'enfer. Alors, il n'était pas le seul à sortir indemne, ça c'est sûr. Mais son témoignage était accompagné de dire, mais moi, je priais, j'ai compté sur Dieu. Et ça a volé de tous les côtés. Ce frère est dans la gloire maintenant. Mais j'ai toujours été impressionné par son témoignage quand il nous racontait la Grande Guerre. Il est mort depuis des années, mais toujours est-il. Et c'est vrai que nous avons une culture qui est d'obédience catholique. Et on ne connaît pas ça. Je veux bien dire qu'il y a peut-être des catholiques qui connaissent bien ce, et qui l'utilisent. Et c'est bien, parce que c'est pas une question de clocher, c'est pas une question d'église, c'est pas une question de chapelle. Hein. C'est une question de foi dans la parole de Dieu. Mais particulièrement les anglo-saxons, ils ont cela. Ils connaissent la Bible et ils vivent avec la Bible. Et c'est vrai que on peut s'imaginer que tous ces hommes, tous ces jeunes gens, parce que c'était des jeunes, ils avaient envie de vivre. Alors que quelque part, tout ce qu'il y avait autour d'eux, c'était la mort. Et c'est un beau témoignage qui nous est donné que dans le danger, dans les calamités, dans les choses extrêmes, mais le Seigneur nous fait des promesses et c'est à nous de les croire. Quelles que soient les choses affreuses qui nous environnent, quels que soient les maux dont nous sommes frappés, quel que soit tout ce qui se passe pour détruire notre monde. C'est une invocation au secours, ce psaume. C'est une prière, c'est un cri plutôt. Parce que quand vous êtes dans des situations confortables, on appelle ça une prière. Mais quand vous êtes dans des situations qui sont extrêmement difficiles et que votre vie, à un moment ou à un autre, risque de basculer, et vous êtes ravi, alors à ce moment-là, ça c'est une invocation. C'est un cri qui monte. Un cri dans les grandes détresses. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas, mais la Bible nous prévient quand même. Elle nous dit. Et je pense que ce psaume est fait particulièrement quand la vie est grandement menacée. Et on y trouve, à chaque expression, ce que nous avons lu, verset après verset, un trésor de promesses sécurisantes et qui rassure, et qui nous fait passer quelquefois du grand trouble, de l'angoisse, d'un état d'anxiété au paroxysme, un calme intérieur. Et qu'est-ce qui nous calme? C'est parce que c'est cette parole. Et cette parole, c'est pas la parole d'un homme, d'un écrivain qui a écrit ça sur un parchemin ou autre chose. Mais c'est une parole qui est appuyée par la confirmation de l'esprit à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, nous pouvons dire « Abba, Père ». Eh oui, nous pouvons le dire. Paroles, promesses sécurisantes sur lesquelles s'appuie l'homme qui est menacé d'un danger mortel. Alors, que dire aujourd'hui? Que dire aujourd'hui? D'abord, si nous regardons par le détail, notre sécurité repose sur la nature même de Dieu. Écoutez bien. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre devant les ardeurs brûlantes du soleil, du feu, repose à l'ombre du Tout-Puissant, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Eh oui. Il est question du Très-Haut. El Shaddai, le Tout-Puissant. Il est question d'abri, là où on peut se réfugier, là où on peut véritablement se mettre de côté. L'ombre dans le feu, nous en avons parlé il y a un instant, dans les déluges qui peuvent surgir et qui surgissent, qui ne manquent pas de surgir dans certains pays aujourd'hui dont nous entendons parler. Je voudrais donner une note par rapport à ce verset premier. Il est question des noms de la toute-puissante divine qui recouvre sa nature. Ouais. Notre foi n'est pas vaine. Notre foi, elle n'est pas dans les hommes. Notre foi, elle n'est pas dans un système. Elle n'est pas dans une protection humaniste. Mais elle est dans la nature même de Dieu. C'est une protection. Elle est également dans sa personnalité. Quelle est la personnalité quand il est question du Très-Haut, du Tout-Puissant, qui nous met à l'abri et à l'ombre? Eh bien, c'est la préservation de notre vie. Et pour une raison bien simple, c'est qu'il nous aime. Il nous aime. Des attributs communicables, on peut le dire de cette manière, qui communique aux hommes. Dieu est amour, mais il nous communique aussi son amour, et nous savons qu'il nous aime à travers finalement cette personnalité qui est déployée à travers ce que nous venons de sa personnalité, et puis ses attributs, c'est-à-dire que il nous met à l'abri et il nous met dans un refuge. El Shaddai. El, c'est un épithète. C'est une facette et une vertu divine qui nous montre ce qu'il est exactement. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, ou Elohim, si vous aimez mieux. El Elyon, c'est-à-dire que c'est le Dieu très haut. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Il remplit les cieux et la terre. Il est le Dieu de l'univers. On peut le dire de cette manière. El Elyon, c'est aussi le Dieu qui est très près. Mais Jésus nous a fait la promesse. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Jamais. Je suis absent. El Elyon, où Yahvé Shama, il est ici. Comme par exemple dans l'histoire d'Agar. Je suis le Dieu qui te voit dans ta détresse, qui te voit dans ta misère. Comme aujourd'hui, eh bien peut-être à travers ces simples paroles, Dieu est en train de parler à quelqu'un ou à quelques-uns pour dire « Mais je te vois, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, je te vois !» El Roé, celui qui te voit, le Dieu qui te voit. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Le Seigneur nous connaît et il nous voit. Et puis vous connaissez bien Yahvé Jiré. Hein? Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit. Parce qu'il ne va pas se contenter de nous voir, de nous dire qu'il est le Très-Haut, mais il va pourvoir à notre délivrance et à notre guérison et à notre protection. Yahvé, c'est Baal, qui veut dire tout simplement le Dieu des armées. Parce que Dieu a aussi une armée. Non, il a une armée. Les hommes ont aussi des armées. Ouais. C'est-à-dire que là, il assure notre protection, il nous délivre et il nous sauve. Yahvé Rapha, et comme il est question justement de peste, de maladie, maladie d'hier, maladie d'aujourd'hui, de toute façon, ce sont toujours des vieilles choses qui relèvent finalement du jardin d'Éden, de la chute, hein, quoi qu'il en soit, c'est le Dieu qui te guérit, Rapha. Alors, si nous allons un peu plus loin dans notre psaume, intervient notre foi personnelle. Écoutez bien, elle est exprimée à travers ce mot. Je dis à l'Éternel. Il m'a dit qu'il était le Très-Haut, qu'il était le Tout-Puissant. Je l'ai entendu, je le sais. Je le crois. Mais moi, je réponds. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Confession. Je dis. Je déclare. Je proclame mon Dieu en qui je me confie. En qui je me confie parce que tu es un refuge et une forteresse sûre. Les forteresses, un bastion, une citadelle. On se souvient toujours de Jéricho, mais celle-ci, elle est tombée. Mais celle dont Dieu nous parle, elle demeure et elle résiste. Et c'est une ultime protection qu'une forteresse, ou tout simplement, eh bien, un refuge. Dans les versets suivants, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Alors, il y a Dieu qui se déclare, il y a l'homme qui confesse, et puis comme s'il y avait une voix qui nous parle, pensons peut-être à la voix du Saint-Esprit qui, quelquefois, dans nos grands troubles et nos grands tourments, nous parle à l'intérieur de nous-mêmes. Dans la tempête et la conviction, il y a une voix qui parle à l'intérieur de nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette voix? Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il y a l'image d'un oiseau qui met à couvert ses petits en danger. Les plumes, bien sûr, c'est douillet, c'est sécurisant. Et puis les ailes, où nous sommes protégés, nous ne sommes plus vus de l'ennemi puisque nous sommes sous les ailes. Il peut plus nous voir, l'ennemi. C'est pas possible. Alors, c'est lui qui te délivre. C'est pas quelqu'un d'autre. Et dans vos problèmes, dans tes problèmes, ce matin, c'est Dieu qui te délivre. Ne cherche pas ailleurs. Ne prenez pas des regards inquiets en disant, mais qu'est-ce qui va arriver? Et comment puis-je m'en sortir? Non! C'est lui qui va te délivrer. Il nous est arrivé quelquefois de passer par des mauvais moments, notamment dans la santé. Et c'est vrai que quand on apprend certaines choses, il y a des noms qui sont terribles. Ouais. Et je me souviens d'avoir fait cette expérience il y a si peu de temps, où je ne savais pas où les choses allaient me mener, me conduire. Et j'ai béni le Seigneur pour les soins que les hommes peuvent nous donner. Ne négligeons pas ça, hein. C'est important. Mais j'ai dit, Seigneur, le protocole que je réclame, et je l'ai vécu comme une assurance à l'intérieur de mon... Le protocole, pour moi, je veux que ce soit le protocole de ton esprit sur ma vie. Bon, ça suit son cours, hein. Mais bon, le Seigneur, c'est lui qui détient toute chose, hein. C'est lui qui fait vivre. Puis, quand le temps est là, eh bien, il nous emmène sous ses ailes. Mais dans une autre configuration, naturellement. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est celui qui captive et qui renferme et qui prend. Prisonnier, qui met prisonnier de la peste et de ses ravages. Vous prenez les informations de ces derniers temps, là? C'est du 24-24, hein. Et le monde est dans la frayeur. Bien que l'on passe des messages en disant « mais n'ayez pas peur, on a les moyens, on a pris toutes les garanties, il y a ceci et cela », et puis de jour en jour, on s'aperçoit que ici ou là, il y a de nouveaux fronts qui s'ouvrent, des fronts rouges qui s'ouvrent de part et d'autre. Alors on comprend que quand même les gens, parce qu'il y a d'autres implications, hein, il y a la santé naturellement, il y a l'économie, il y a la politique et toutes sortes de choses. Enfin, ça se secondaire, c'est la vie des gens qui est importante. Naturellement. Et nous apercevons que, eh bien, il y a des promesses dans des mots très discrets, très, très sobres dans la Bible, hein, la peste et ses ravages. Ouais. Puis alors, ce qui est terrible, c'est que, même avec une paire de lunettes, on les voit pas arriver, hein, les... Et, faut déjà avoir de bons yeux, hein. Ce matin, on s'est tous fait une salutation comme ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, il y a des précautions à prendre. Et on va pas dire le contraire, c'est tout à fait normal. Mais, il y a le mal, et il y a la peur. Et là, c'est quelque chose de terrible, la peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir avec qui l'on est. De quel côté nous sommes. En qui nous mettons notre espérance. Confiance dans les hommes, bien entendu. Dans ce qu'ils peuvent faire. Mais quelquefois, il y a des limites. Notre espérance est en celui qui nous délivre, parce qu'il est El Shaddai. Parce qu'il est El Shaddai. Dieu est un Dieu, et Dieu d'une indéfectible fidélité. et c'est notre ultime protection, c'est quelque chose. Naturellement, filet de l'oiseleur, on devine ce que ça peut être. Ce sont les actions visibles. Un oiseleur, c'est visible. On voit le filet qui arrive sur l'oiseau, naturellement. Et puis, il y a les pestes et les ravages, les actions invisibles et sournoises. C'est ce que nous avons déjà dit, déjà depuis le début. L'assurance de trouver, eh bien, la divine protection contre l'oiseau sans défense ou le soldat exposé au feu, destructeur, mais qui est à l'abri. Et un moyen de protection, c'est la cuirasse. Vous savez, quand Paul nous parle du soldat romain avec sa cuirasse, et de se mettre à l'abri. Eh bien, le Seigneur est mon abri, et le Seigneur est ma cuirasse. C'est une arme défensive, hein, la cuirasse. Comme le bouclier, d'ailleurs, puisqu'il est question du bouclier. Un peu plus loin est donnée une précision, c'est la permanence du secours de Dieu. Lisons-le. « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, » ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Le plus redoutable dans notre condition d'homme, c'est la peur. Et j'y reviens. Il y en a un qui s'amuse. Il y en a un qui se régale, il y en a un qui trouve finalement, eh bien, toute sa jouissance avec la peur des hommes. Vous savez ce qu'a dit Adam quand Dieu l'a appelé ? J'ai eu peur. Et la peur demeure. Les gens, les hommes de notre siècle, ont aussi peur que ceux d'hier. Et bien que nous ayons trouvé des moyens d'une manière ou d'une autre. La peur. Et la peur, eh bien, détruit la foi. Et c'est ça ce qui est terrible. C'est ça ce qui est... Vous savez, c'est pas tant de prier pour que nous soyons guéris, c'est de prier pour que nous ne puissions pas avoir peur et que la foi nous amène à la guérison, dans la grâce de Dieu. Parce que tant que nous sommes avec un fond latent, quelquefois inconscient, de peur au fond de notre conscience, de nos esprits, de notre pensée, alors à ce moment-là, la foi sera toujours neutralisée. Tout est possible à celui qui croit. Mais Seigneur, délivre-moi de mon incrédulité, délivre-moi de la peur. Les grandes expériences avec Dieu, les grandes expériences surnaturelles et miraculeuses, elles se font dans la plénitude de la foi. Mais le Seigneur veut nous donner cette plénitude de la foi. Mais il faut dire qu'avec tout ce que nous entendons, avec toutes les informations, avec toutes les contradictions, dès qu'il y en a un qui apporte une version, il y en a un autre qui passe derrière pour la contredire. C'est un monde de fous. Excusez-moi, hein. Mais quand même. Comment les gens peuvent-ils se tourner vers Dieu puisqu'on leur a dit que Dieu était mort? Ouais, Dieu est mort. Mais il est mort pour certains. Désolé pour ceux qui croient que Dieu est mort. Mais nous, notre Dieu, il est vivant. Et ça, c'est tout à fait différent. Et c'est ce qui nous fait vivre. Non pas comme l'opium du peuple, oui, ça, mais comme une véritable réalité spirituelle au fond de notre cœur. Les terreurs nocturnes. Hein, vous savez, quand on est dans le trouble, on dort mal la nuit, non? Vous avez bien dormi cette nuit? Il pleuvait. J'avais pensé à un moment donné que je vous parlerais de Noé et du déluge ce matin. Mais bon, soyons sérieux. Les flèches imprévisibles qui arrivent comme ça, on ne sait pas d'où elles viennent, qui les a tirées, vous savez, comme l'histoire d'Acab, hein? La peste insidieuse, la contagion invisible et inconnue qui frappe en plein jour sans pouvoir s'en prémunir. On voit les choses, on sait les choses, elles vont arriver et on ne peut rien faire. Mais c'est Dieu qui promet d'être à nos côtés quand il dit ceci. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tout simplement. De tes yeux seulement tu regarderas. Et là, c'est un triomphe. De tes yeux tu regarderas. Et qu'est-ce que tu verras? Tu verras le fruit de ta confiance, le fruit de ta foi. Une forme de récompense, si vous voulez bien que nous ne méritions rien. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution, eh bien, des méchants. Alors seulement regarde. Là aussi, maintenant, tu es autorisé à regarder, parce que la foi, c'est voir ce qui est invisible. C'est croire sans voir. Mais maintenant, tu pourras voir. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas te rendre à l'évidence, comme le prophète Malachi nous donne ce beau texte. Écoutez. Il dit ceci au chapitre 3 et au verset 17 et 18. Ils seront à moi, vous êtes à lui. D'accord? Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Confirmation que la protection de Dieu est toujours, dans la préservation est toujours un acte d'amour de sa part. Naturellement. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Eh oui, nous sommes tous des fils et des filles, par notre foi en Jésus-Christ. Dieu n'est pas un inconnu. Et puis écoutez la suite. Et vous verrez de nouveau, quand l'œuvre de la foi, quand votre cœur sera calmé, quand vos pensées seront apaisées, quand vous serez tout simplement dans cette sécurité de cette confiance en Dieu, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, l'incrédule, hein, je traduis, celui qui croit et celui qui ne croit pas. La différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Eh bien, c'est exactement dans cette configuration dans laquelle nous sommes, dans cette humanité de rejet de Dieu sans espérance et l'autre partie de l'humanité qui sont les enfants de Dieu. Et nous sommes au bénéfice de ces promesses merveilleuses, notamment le psaume 91. Eh oui. Regarde. Mes frères et sœurs, regardez déjà ce qui s'est passé dans votre vie. Vous avez eu des moments difficiles, des moments terribles, des moments où vous êtes passé à deux doigts de la mort. Et Dieu vous en a tiré. Pourquoi, aujourd'hui, doutez-vous qu'il le fasse à nouveau dans d'autres situations? Il va le faire. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Alors à ce moment-là, je peux confesser tout simplement les compassions de mon Sauveur, quand il est dit ceci, « Car tu es mon refuge. » Je le dis maintenant. « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. » Et voilà le secret de ce qui fait la puissance libératrice de Dieu, le monde invisible, étranger au regard humain et surnaturel. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les anges, écoutez. Je voudrais quand même mettre, ouvrir une parenthèse. Je ne crois pas aux anges gardiens qu'on nous a inculqués lorsque nous étions au catéchisme. Un ange à droite, un ange à gauche. Vous savez, dans les Tintin et Milou, il y avait un petit peu d'abus dans certaines choses. Il avait un ange d'un côté noir, puis un ange blanc de l'autre côté. Alors, arrêtez avec les bandes dessinées. Mais c'est ce qu'on nous a indiqué. Mais écoutez. Mais néanmoins, le monde surnaturel, le monde invisible, qui est étranger au regard des autres hommes, ce sont les anges quand il est dit ceci. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ça concerne Jésus, mais ça nous concerne aussi. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Eh oui. Vous savez comment est défini le monde angélique? On appelle ça en doctrine angélologie. Oui, c'est une doctrine qui a sa place dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est pas du rêve, hein. C'est une réalité. Et il nous est dit que les anges sont les serviteurs de Dieu au bénéfice de ceux qui doivent hériter le salut. Nous, nous l'avons hérité. Alors, n'allez pas prier les anges. N'allez pas livrer un culte aux anges. Ça, c'est faux. C'est une abomination, une idolâtrie. Mais néanmoins, moi je crois que nous avons toujours les yeux fixés sur El Shaddai, nous avons les yeux fixés dans le Nouveau Testament sur Jésus, qui nous a fait la promesse qu'il était tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde, mais que néanmoins, les anges sont des serviteurs de Dieu et de Jésus, de Dieu incarné en Jésus si vous voulez, pour nous envoyer du secours. Comme ça a été le secours pour Agar, pour David dans certains cas, ou pour par exemple Daniel, le prophète. Pour annoncer dans le Nouveau Testament, la venue du Messie pour les Juifs. Et dans d'autres situations, Quand Pierre était en prison, par exemple, dans le livre des Actes, et les portes qui s'ouvrent toutes seules quand elles sont fermées à clé. Faut le faire, hein? Eh. Et personne ne croyait, puisque tout le monde était en train de prier dans la maison de Marie, il me semble qu'elle s'appelait Marie. Et tout le monde, alors le pauvre Pierre, il avait été délivré par un ange, il était sorti de la prison parce que le lendemain matin, il devait certainement être décapité. Il frappe à la porte, personne ne bouge, il continue à prier. Ben, quelquefois, faudrait peut-être savoir ce que nous demandons au Seigneur, parce que quand nous demandons et que Dieu nous exauce et que nous ne croyons pas, eh ben, on va rester à la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez quand même? Parce que je vous sens tellement tranquille. Oui? Non, mais... Eh oui. Ne soyez pas étonnés des exaucements de prières, et même quelquefois, qui dépassent notre imagination, hein, au-delà, naturellement. Au cœur de l'adversité, que ce soit la peste et la contagion dont nous parlons, à travers cette épidémie, cette pandémie qui se répand, et qui apparemment n'a pas l'air de vouloir régresser, à travers toutes les terreurs et les calamités, le Seigneur demeure. Tel est le destin du croyant qui se confie en lui. Mes frères et sœurs, moi je vous exhorte à faire confiance au Seigneur. Et à nous dépolluer, finalement, de tous les bruits qui courent de droite et de gauche. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, il y a un mois, j'avais donné un message sur les fake news. Et là, il y en a de plus en plus. Alors, tout est bon pour raconter aux gens que, eh ben là, il y a ceci, cela, etc., etc. Eh oui. Bien que 6 000 ou 10 000 tombent à ma droite ou à ma gauche, le chrétien, comme le reste des hommes, et je mets cette parenthèse, peut être atteint aussi. Je dois le dire. Il peut être atteint, mais Dieu l'en délivre. Et Dieu l'en délivrera toujours. J'ai quelquefois entendu des réflexions assez bizarres, où des gens disaient, parce que je suis chrétien, parce que je suis consacré, parce que je prie Dieu, parce que ceci, il ne m'arrivera rien dans la vie. Alors là, c'est véritablement être vraiment à côté de la plaque. Parce qu'il peut nous arriver beaucoup de choses. Vous connaissez cette parole dans le psaume 37, il me semble, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et quelquefois, il nous faut passer par des situations où il peut être confronté avec la guerre. Il peut être confronté avec la méchanceté autour de nous. Il peut être confronté avec un cancer. Il peut être confronté avec toutes sortes de maux. Mais une chose qui est certaine, c'est parce que nous avons mis notre confiance en Dieu, eh bien l'Éternel l'en délivre et l'en délivrera toujours. D'une manière ou d'une autre, il fera en sorte que même notre aventure malheureuse, eh bien il la change en bénédiction et une grâce. C'est la suite et c'est la conclusion. Courageusement et sans peur, il pourra affronter le lion. Le lion, c'est quoi? Le lion, c'est tout simplement la peur que nous inspire l'opposition du bruit terrifiant, le rugissement par exemple. Les félins dans certains pays terrassent la gazelle par le rugissement et ensuite elles sont complètement tétanisées et elles ne peuvent pas se défendre. Il y a la question de l'aspie aussi. L'aspie, c'est l'opposition d'une œuvre silencieuse et subtile. Vous ne l'entendez pas venir, mais néanmoins ça peut être plus dangereux. Le diable qui se faufile. L'opposition d'une œuvre silencieuse, donc, est venimeuse aussi. Hein. Il y a des choses que le diable se sert pour véritablement nous infecter et nous détruire. Hein. Le dragon, c'est le feu qui consume. C'est toutes sortes de choses que nous pouvons assimiler. Alors, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. C'est Dieu qui nous dit ça. Puisque Dieu vous aime, parce qu'il vous a sauvé. Il vous a sauvé là d'où vous venez, de la condition peut-être misérable dans laquelle il vous a pris. Et aujourd'hui, vous faites partie du peuple de Dieu. Vous croyez qu'il va vous laisser tomber? Quand Dieu a sorti les Hébreux de l'Égypte et de Pharaon, il les a pas laissés tomber dans le désert, il les a accompagnés. Bon, c'est sûr qu'ils ont appris les leçons, hein. Ça c'est clair. Hein. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Puisque vous connaissez El Shaddai, eh bien vous avez tout. Et si vous voulez regarder dans une concordance, vous prenez tous les noms de Dieu et vous allez voir qu'il y en a. Il y en a, il y en a, et ils correspondent à une facette ou à une vertu particulière divine qui vous est destinée. puisqu'il connaît mon nom. Aimer Dieu, connaître son nom, c'est avoir la foi en lui. La foi. Et le plus beau, il m'invoquera et je lui répondrai. Qu'est-ce que vous attendez pour prier? Qu'est-ce que vous attendez pour lâcher prise dans vos réticences ou dans vos craintes, dans vos peurs? Commencez donc à lui demander de vous guérir de vos peurs. Et après, vous pourrez les prier librement. Mais quelquefois, on s'embarrasse avec toutes sortes de casseroles que l'on traîne et on se dit, mais on tourne en rond, etc., etc. Je l'ai vu, ça. Et quelquefois, ça peut nous arriver à nous-mêmes. Je suis pas en train de faire la leçon aux autres parce que nous y pensons nous-mêmes. Mais une chose qui est certaine, c'est que apprendre à invoquer et de savoir qu'il va nous répondre. Et je serai avec lui dans la détresse. Le Seigneur est avec vous. Ne vous désespérez pas. Cessez de pleurer. Comme Jésus disait, dans des cas si graves, à la veuve de Nain, ne pleure plus. Et Dieu vous dit, peut-être à certains qui tournaient en rond, le Seigneur te dit, mais ne pleure plus. Le Seigneur va assécher tes larmes et il va te donner de voir autrement, parce qu'autrement, là, eh bien, tu es le jouet de l'ennemi et de ton imagination aussi. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, ma délivrance, la grâce dont il a besoin. Alors, que faire? Je finis. Que croire? Qui croire? Il y a des précautions et des préventions médicales nécessaires. On n'est pas fou, hein. Et bien d'autres choses. Devant certaines menaces de l'humanité, contre l'humanité, devant, finalement. Mais les chrétiens que nous sommes, nous avons une ressource inimitable dans cette parole évangélique. C'est celle qui nous est donnée dans Romains, où il est dit cette parole particulière. L'Épître aux Romains, au chapitre 14 et verset 8. Car si nous vivons, d'accord? Nous sommes vivants. Mais si nous vivons, dit Paul, nous vivons pour le Seigneur. Pas à moitié pour le Seigneur et à moitié pour le reste. Nous vivons entièrement pour le Seigneur. Et si nous mourons, si nous mourons, de toute façon, ça va nous arriver, hein. Vous faites pas d'illusions, hein. C'est là où les statistiques ont raison à 100%. Voilà. Mais si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions. Ah, le mot est dit. Nous sommes au Seigneur. Et vous êtes au Seigneur. L'Église est au Seigneur. L'Église appartient à Jésus-Christ. Ma vie appartient à Jésus-Christ. On l'a entendu dans une des louanges ce matin. Ouais. J'appartiens au Seigneur. Alors à ce moment-là, tout change. Tout change. Nous sommes que des hommes, nous sommes de nature comme les autres hommes, mais à la différence, c'est qu'il y a quelque chose. C'est soit la peur, ou soit la paix. Et nous avons choisi la paix. Nous avons choisi, comme il nous l'est donné dans Ésaïe, c'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce. Je le rassasirai de longs jours, nous dit le texte, verset 15, et je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir ma délivrance. Je le rassasirai de longs jours. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et gardez cette parole au fond de votre cœur. Nous allons prier simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Tu as voulu parler depuis les temps immémoriaux aux hommes à travers véritablement une parole, à travers la parole. Tu nous as pas tant demandé de lire, hein, mais tu nous as demandé d'écouter. Et nous lisons et nous écoutons. Et nous voulons croire, Père éternel, que tu connais les besoins de ton Église, tu connais les besoins de tel frère ou telle sœur. Tu sais, Seigneur, peut-être devant les événements qui sont là, dans notre monde, qui se prépare peut-être dans l'amplification, Seigneur, de tout cela, et bien qu'il peut y avoir des craintes et des appréhensions pour l'avenir. Mais Seigneur, nous voulons croire, Père éternel, que tu nous as prévenus. Dans les signes précurseurs de ton retour, il y aura ceci, il y aura cela, il y a ceci, cela. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous sommes prévenus. Nous ne voulons pas nous mettre la tête dans le sable comme l'autruche, en pensant, Seigneur, que ça n'a aucune valeur pour nous aujourd'hui. Nous avons d'autres moyens de nous défendre, d'autres moyens de nous libérer, d'autres moyens de nous affranchir du mal. Non, toi tu restes le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Tu es souverain, Seigneur, et nous voulons, Père éternel, bénir ce nom merveilleux que tu portes, El Shaddai, parfaite sécurité pour le peuple de Dieu. Oui, El Shaddai. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, et bénis mes frères et sœurs. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.